Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Nicolas Sen, Démocy Margot Le Ridon, Mélanie Chaland, dont Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hue et mise en onde ce matin par Baptiste Lénard. Second temps d'une série consacrée à ces milliardaires qui veulent changer le monde. Après avoir évoqué hier la figure de Jeff Bezos et les aspirations du multimilliardaire allant d'Amazon à la conquête spatiale, avant d'évoquer demain, pour la journée de la science, Bill Gates, le philanthro-capitaliste au chevet de la santé, et puis enfin de s'attarder jeudi sur Jimmy Lai, le patron de presse qui s'oppose à Pékin, intéressons-nous aujourd'hui au financier américain d'origine hongroise, George Soros.
Bien sûr, tout le monde sait que notre réseau de fondations, l'Open Society Foundations, avait donné à Viktor Orban une bourse pour étudier à Oxford. Il n'a pas passé beaucoup de temps là-bas, puisqu'il était complètement impliqué dans la politique hongroise et retournait souvent en Hongrie. Nous avons été en contact pendant très longtemps, mais je n'arrive pas à me souvenir quand je l'ai vu pour la dernière fois. Ces derniers temps, je l'ai évité, et peut-être qu'il m'a évité aussi. Donc, nous ne nous sommes pas vus. Notre relation a mal tourné parce qu'il a mal tourné.
Notre relation a mal tourné parce qu'il a mal tourné, expliquait le milliardaire George Soros au sujet du premier ministre de son pays natal, Viktor Orban. Et de fait, à la fin des années 80, lors des débuts du Fidesz, désormais parti au pouvoir en Hongrie, le politicien et l'homme d'affaires partageaient en fait le même but, libérer la Hongrie de l'emprise de l'Union soviétique. Mais 30 ans plus tard, George Soros est devenu la bête noire de l'homme d'État qu'il accuse dans une rhétorique aux accents antisémites à peine voilés de promouvoir l'immigration pour détruire la nation hongroise et son identité chrétienne. Au cœur de ce discours, le concept de société ouverte, emprunté par George Soros à son mentor, Karl Popper, est promu à travers les Open Society Foundations, ce réseau d'organismes philanthropiques qu'il a créé au service de l'éducation supérieure libre. L'Université d'Europe centrale, un établissement anglophone de haut niveau fondé en 1991 à Budapest, en a longtemps été la figure de proue et a offert des bourses et une formation à des milliers d'étudiants. Mais cela fait bientôt 2 ans que ses locaux ont déménagé à Vienne, au terme d'une campagne acharnée de Viktor Orban à son encontre. Alors quel est le projet de société défendu par George Soros à travers les Open Society Foundations? C'est comment les met-il en œuvre? Quels ont été les résultats de son action philanthropique au cours des 4 dernières décennies? Et en particulier, évidemment, du côté de la Hongrie. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Jacques Rupnik. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Jacques Rupnik. Vous êtes historien, politologue, directeur de recherche aux séries Sciences Po. Vous avez signé un certain nombre d'ouvrages, je pense notamment à la géopolitique de la démocratisation. Il y a évidemment des sujets que vous évoquiez, qu'on soulèvera aujourd'hui. À nos côtés également, depuis Budapest, Corentin Léotard. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, journaliste et rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale. Peut-être un mot, on va commencer avec vous, Jacques Rupnik, sur ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire Georges Soros expliquant que la relation avec Viktor Orban a mal tourné, leur relation, parce que Viktor Orban a mal tourné, c'est ce qu'il dit en tout cas, et qui rappelle, avec une certaine malice, comment le Premier ministre hongrois a, du temps de sa jeunesse, bénéficié d'une bourse à la fin des années 80 pour aller étudier l'histoire, la philosophie libérale à l'université d'Oxford. C'est un élément historique intéressant qui nous rappelle qu'en réalité, celui qui n'est pas encore Premier ministre de son pays, à peine trentenaire, même pas à l'époque, eh bien, était quand même séduit par les thèses libérales, à l'époque.
Absolument. Le mouvement Fidesz qu'il avait créé, qui faisait partie de la dissidence naissante en Hongrie, était un mouvement qui se réclamait ouvertement du libéralisme, mais pas seulement du libéralisme politique, aussi du libéralisme économique et du libéralisme sociétal. C'était les plus libéraux, c'était les gens du Fidesz. Et donc au moment du basculement du régime, en 89, ils apparaissent comme l'aile la plus radicale du libéralisme. Tout le monde s'était converti au libéralisme, même les anciens communistes. Mais là, nous avions, disons, l'avant-garde du libéralisme. Donc là, et Vous avez rappelé que George Soros avait, la fondation de George Soros avait proposé une bourse à Orban. Moi, j'ai lu la lettre de Orban postulant, disons, comme candidat à cette bourse. Et parmi ses motivations, c'est nous voyons que la question de la démocratisation de l'Europe centrale est à l'ordre du jour. La question de la société civile et de l'émancipation de la société civile libre est une question cruciale. C'est ce que je souhaite étudier à Oxford pour pouvoir développer ces idées en Hongrie, etc. Et son modèle de référence, c'était la société civile polonaise, la dissidence polonaise. Il avait écrit un mémoire sur la société civile polonaise.
Oui, il fait même référence il utilise même cette formule de société ouverte. Disons, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce concept de société ouverte, du côté de la Hongrie. On va s'intéresser tout à l'heure, évidemment, à comment les choses sont passées, voir comment cette transition s'est organisée. Mais d'abord, peut-être, restons sur le personnage de George Soros, essayons de comprendre comment il en est arrivé là, si je puis dire, Corentin Léotard. Et peut-être faut-il rappeler comment cet homme est devenu un milliardaire, comment il a fait fortune. C'est important pour ensuite voir comment il a déployé son idéal libéral. Mais commençons par le début, finalement, puisqu'on fait, nous, une semaine, Corentin Léotard, sur ces milliardaires qui veulent changer le monde. Comment est-il devenu milliardaire, cet homme, Corentin Léotard?
Alors, George Soros, il est né en 1930 en Hongrie. Soros György, on dit en hongrois. Il a quitté la Hongrie en 1947 pour partir à London School of Economics. Et de là, il part en 1956... Donc l'année de la Révolution hongroise, il s'envole pour New York, pour le monde de la finance, où 10 ans plus tard, il crée le fonds Quantum, qui est un fonds d'investissement et qui va se spécialiser dans la spéculation financière. Et George Soros va devenir un homme riche dès les années 70. En 1980, quand il arrive en Hongrie avec sa fondation, il n'est pas encore milliardaire ou pas loin de l'être. C'est essentiellement dans les années 90. En spéculant notamment sur contre la livre sterling et le baht thaïlandais, qui va vraiment constituer une fortune considérable. Aujourd'hui, il est multimilliardaire et via l'Open Society Foundation, il a investi à peu près une trentaine de milliards d'euros depuis 30 ans.
Ouais, c'est vrai que c'est évidemment le coup de génie de Soros qu'on rappelle très souvent en septembre 92 lorsqu'il va vendre à découvert 10 milliards de livres en pariant sur la baisse de la monnaie britannique, et c'est un pari qui va s'avérer gagnant puisqu'il va en tirer plus $1 milliard de bénéfices. Et dès lors, il va se spécialiser justement dans la spéculation monétaire, ce qui n'est pas si classique. Jacques Rupnik, Corentin Léotard rappelait que Soros avait été étudiant à la London School of Economics, et il a eu comme professeur un certain Karl Popper. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, peut-être, nous dire combien cette rencontre a été importante dans sa construction intellectuelle ?
Très importante. Il le dit, et véritablement, s'il a une philosophie dans la vie, elle est inspirée de Karl Popper. Mais ceux qui ont lu Karl Popper savent que c'était pas un gourou, c'était pas un prophète. Au contraire, toute la démarche de Popper, c'était de remettre en cause les philosophies prophétiques. Hegel, l'histoire et l'incarnation d'une idée, ou Marx, qui a des lois du développement historique et qui a une ambition, disons, scientifique. On découvre de façon scientifique les lois de l'histoire. Lui, c'est au contraire, c'est l'inverse. C'est on s'oppose aux prophéties avec prétention scientifique. Et ce qui retient chez Popper, c'est évidemment pourquoi elles sont contestables. Parce qu'on ne peut pas les falsifier. Elles sont énoncées. Elle se proclame scientifique. Vous vous souvenez qu'en France, Louis Althusser a été celui qui avait énoncé la coupure épistémologique entre l'idéologie d'un côté et la science. Le marxisme, c'était la vraie science. Donc lui, il dit, ceux qui se prétendent le détenteur, la science de la société, ils préparent le cauchemar totalitaire. Et donc, ce que Soros retient de Popper, c'est l'idée qu'il faut une société ouverte, une société libre, fondée sur l'échange. Et la liberté et la science doivent aller de pair. Et je crois que ça, c'est ce qu'il a gardé. l'idée de la société ouverte, la liberté et les conditions pour les garantir, c'est-à-dire l'état de droit. Oui. Et bien sûr, ça, c'est des thèmes qui sont aujourd'hui particulièrement sensibles.
D'ailleurs, la société ouverte, cette formule qui est si présente dans la pensée de George Soros, on la retrouve évidemment dans celle de Popper. Les deux livres principaux de Popper, c'est « Misère de l'historicisme » et « La société ouverte et ses ennemis ». Et c'est évidemment un concept popperien. Corentin Léotard, peut-être pour poursuivre un petit peu sur ce chemin et voir l'influence de Popper sur Soros. C'est vrai qu'il a toujours voulu, Soros, qu'on reconnaisse son apport philosophique. Lequel est-il ? Est-ce que finalement il s'inscrit seulement, si je puis dire, ce qui est déjà pas mal, dans la lignée d'un Karl Popper, ou est-ce qu'il vous semble que il y a dans ses apports quelque chose d'inédit d'une certaine manière ? Corentin Léotard.
Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de personnes à Budapest qui ont travaillé avec George Soros. On ne l'a jamais décrit comme un intellectuel. George Soros n'est pas un intellectuel. C'est quelqu'un de très brillant, évidemment, dans les affaires. On l'a bien vu. Mais si vous voulez, en fait, quand la société ouverte de George Soros, je pense qu'on peut quand même le résumer de façon assez simple. C'est le combat de la démocratie contre la dictature communiste dans les années 80 au départ, et ensuite aujourd'hui contre les régimes autoritaires et illibéraux avec des guillemets, dont celui de Viktor Orban.
Régime autoritaire, justement, Corentin Léotard, oui. Vous le disiez, avant de partir en Angleterre et puis aux États-Unis, le George Soros vit en Hongrie. Il a une douzaine d'années quand l'Allemagne nazie envahit la Hongrie, et bien que sa famille soit juive, il va, lui, réussir à éviter la déportation. Comment il va vivre cette expérience du totalitarisme et comment est-ce que ça va le marquer, Corentin Léotard?
Oui, alors voilà. Alors je pense que autant que Karl Popper, vraiment une figure qui a vraiment marqué Soros, c'est son père, dont il était très proche et qu'il admirait beaucoup, notamment du fait que Tivadar Soros, donc son père, avait réussi à protéger la famille pendant l'Holocauste. En 1944 en Hongrie, en trouvant des faux papiers pour la famille et pour les proches. C'était un avocat aisé, qui était un homme libéral, un homme progressiste, et qui avait une particularité, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, envoyé sur le front russe, il avait appris l'espéranto. Et en revenant après la Première Guerre mondiale, il était devenu un des grands promoteurs de la langue espéranto. Espérantiste en Europe centrale. Et d'ailleurs, en 1947, quand George Soros part à la London School of Economics, il profite d'un congrès mondial de l'espéranto à Berne pour, si vous voulez, passer à l'Ouest. Donc ça, c'est évidemment une expérience qui a vraiment profondément marqué George Soros, cette Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il passe l'été avec sur une petite île, l'île Lupa, qui se trouve au nord de Budapest sur le Danube, avec son grand ami Erhi, qui est celui qui va lui souffler l'idée de créer une fondation à Budapest dans les années 80.
On va y venir. Jacques Repnik.
Oui, je pense que c'est cette expérience de la guerre, et surtout de la fin de la guerre, de la déportation des Juifs de Hongrie. Il l'a vécu, il l'a vu. Il a eu la chance, parce que son père a pu acheter des faux papiers, de s'enfuir, mais il sait en quelque sorte le prix de la liberté. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que ça l'a marqué. Et son antitotalitarisme, il n'est pas dirigé seulement contre le communisme. Après, il a cette expérience de totalitarisme nazi et de toutes les idéologies de la pureté ethnique. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose. Et si on veut comprendre peut-être certaines de ses attitudes, pourquoi a-t-il soutenu les opposants à Milosevic pendant la guerre dans l'ex-Yougoslavie, pourquoi a-t-il pris certaines positions par rapport à la question des migrants? Je crois que tout ça se rattache d'une certaine façon à cette expérience.
Jacques Rupnik, avec la chute de l'URSS, est fondée en 1991 l'Université Europe Centrale à l'initiative justement de Georges Soros. C'est un projet qui est le résultat de plusieurs séminaires qui s'étaient tenus à la fin des années 80, et vous avez fait partie, vous, de ces discussions autour de ce projet-là. Quelle est au départ, Jacques Rupnik, l'ambition de Georges Soros avec cette université?
Alors, au départ, c'est « il faut faire quelque chose ». mais on n'est pas sûr de quoi.
On ne sait pas quoi.
Voilà, il faut faire quelque chose parce que clairement, quand on sort d'un régime où l'État-parti contrôle les institutions académiques, intellectuelles, les maisons d'édition, etc., bon, il y a besoin de liberté, mais il n'y a pas besoin de réinventer une université. L'université de Budapest est une université ancienne. L'université de Prague, elle a été créée en 1348. Bon, ce sont de très anciennes universités, simplement qui, politiquement, ont été phagocytées. Donc, elles n'ont pas besoin d'être réinventées. Comment faire quelque chose qui ne cherche pas à se substituer à ce qui peut être, disons, réhabilité ou revitalisé de l'intérieur, et comment apporter un complément crucial pour la période qui s'ouvre, qui est la transition à la démocratie et la perspective européenne. Alors il y a des débats que nous avons eus entre est-ce qu'il faut faire une sorte de, entre guillemets, d'ENA centre européenne, des gens qui seraient voilà, les cadres ou qui seraient la future élite qui prépare l'entrée dans l'Union européenne, ceux qui seraient européanisés, une sorte d'élite européiste, etc. Il y a divers débats sur ce que peut apporter l'université centre européenne. Finalement, c'est l'option beaucoup plus académique qui l'emporte. Et
celle que voulait donc George Soros.
Oui, ben il a lui-même changé plusieurs fois d'avis.
Ah
ça,
bon
c'est, ça fait partie de son tempérament parce que c'est quelqu'un qui est très réactif et donc il voulait en fonction de l'évolution de la situation. Mais au moment, moi j'ai participé au premier séminaire donc j'ai organisé l'été 91 à Budapest pour les étudiants d'Europe du centre et de l'est. Sur les transitions à la démocratie, avec mon collègue Pierre Asner, décédé, que je salue.
Et qu'on a avec... eu plusieurs fois à ce micro.
Et oui, et Alfred Stepan, qui était un grand spécialiste des transitions à la démocratie, qui était professeur à Columbia et qui est devenu le premier recteur de l'université centre-européenne. Donc c'était le ballon d'essai. Et à partir de là, l'année suivante, ensuite a été créée l'université. Et ça, c'était la nouveauté pour Soros. Parce que lui avait l'habitude de financer des ONG. Il avait l'habitude de financer un projet. Si vous avez une bonne idée, un bon projet, je vous donnerai de l'argent. Mais pas pour de l'argent pour créer un appareil qui va perdurer une institution. Non, pour un projet. Et je veux pas de bureaucratie ni rien. Là, c'était autre chose. Il a fallu lui faire comprendre qu'une université, c'est une institution qui s'inscrit dans la durée. D'une part. Et d'autre part, c'est une institution qui est indépendante. Il ne s'agit pas de dire elle devra faire ceci ou cela. Non, c'est une institution académique. On crée un conseil académique avec des universitaires reconnus. Et c'est ce qui a été fait pour la première fois. Soros n'a pas financé un projet ou une ONG. Pour la première et seule fois, il a financé une institution. Et ça, pour ce faire, il a créé un fonds spécial où il a investi. Mais c'est les intérêts de ce fonds qui permettent à l'université de fonctionner.
Mais attendez,
il y a un conseil académique où il n'a strictement rien à dire. Donc il a un président d'honneur.
Donc l'indépendance n'est pas seulement théorique, elle est réelle. Parce que vous savez, les critiques ont pu être adressées à l'endroit de cette université, et notamment dans le domaine des sciences économiques, expliquant que d'une certaine manière, on y prenait le néolibéralisme. Ça c'est faux. Toutes les sciences économiques, quelles qu'elles soient, ont été enseignées dans cette université.
Oui, mais déjà, bon, c'est une université qui pouvait pas faire tout. C'était pas une université, c'était pas une business school. Ça a commencé par les sciences humaines et les sciences sociales. Moi, on avait créé le premier séminaire, c'était sur les transitions à la démocratie. Un département d'histoire a été créé, qui était dirigé par le professeur Hanak, un éminent spécialiste de l'Autriche-Hongrie. Il y avait aussi un département d'économie, et il faut dire que, à l'époque, mais ça concernait pas l'université centre-européenne, la plupart des économistes en Hongrie et en Europe centrale étaient libéraux. Quand vous essayez de démanteler un régime étatiste, vous vous tournez vers l'idéologie ou vers l'autre modèle qui est le modèle libéral. Ensuite, chacun avait son interprétation et sa variante du libéralisme. Mais disons, dans les années 90, surtout au début des années 90, oui, c'était le courant dominant, mais c'était pas une doctrine qu'on cherchait à inculquer aux étudiants.
Under the Soviet system,
Avec le système soviétique, l'État jouait un rôle paternaliste qui était omniprésent. Après l'effondrement de l'URSS, ce rôle est passé d'un extrême à l'autre. L'État n'est plus apte à remplir ses engagements sur le plan social et des besoins essentiels de la société russe ne sont pas satisfaits.
Voilà, Georges Soros, lors d'une conférence de presse en 1997, qui annonçait qu'il allait investir des centaines de millions de dollars du côté de la Russie. Il avait déjà investi du côté de la Hongrie parce qu'en parallèle à l'université d'Europe centrale dont on parlait, eh bien, il a travaillé aussi à l'implantation de sa fondation en Hongrie. Corentin Léotard, on est encore à l'époque dans un pays avec un parti unique, qui veut évidemment contrôler ses dissidents. Comment se passent les débuts, justement, de cette action de la Fondation en Hongrie? Quelles sont les difficultés, les blocages pour expérimenter ce principe de société ouverte dans un pays qui va se retrouver évidemment confronté à ce défi de la transition politique?
Ouais, alors, ce sont des dissidents qui obtiennent des dissidents hongrois au début des années 80, 1983, qui obtiennent des bourses pour aller étudier à la New York State University et Columbia, et qui rencontrent George Soros donc à New York, qui lui souffle l'idée de créer une fondation donc dans son pays natal, et il arrive George Soros en 1983. Et la fondation commence à fonctionner en 1984. Mais alors évidemment, c'est un contexte tout à fait particulier parce qu'une fondation privée d'un milliardaire américain, comme vous l'avez rappelé, c'est encore le communisme et le parti unique. Simplement, à l'époque, la Hongrie est dans une très mauvaise situation comme l'ensemble du bloc de l'Est. Elle a subi le choc pétrolier, elle a besoin d'argent, elle a besoin de se rapprocher du FMI, d'obtenir un prêt du FMI. Et ça donne un moyen de pression très important aux Américains qui demandent à Budapest de lâcher du lest, notamment aux dissidents.
Est-ce que la Hongrie demande des garanties à l'époque quand même, l'État? Et en particulier de ne pas soutenir les dissidents.
Bien sûr, bien évidemment. Georges Soros, quand il arrive, il veut créer sa fondation privée, et ça c'est impossible. Et il va devoir décevoir ses partenaires hongrois en faisant un compromis avec le Parti communiste. Et en acceptant que ce soit une fondation mixte, c'est-à-dire une fondation dans laquelle la fondation Soros donc et l'Académie des sciences hongroise, qui était quand même évidemment le bras armé de l'État, et ce qui confère un droit de regard total du Parti communiste sur toutes les activités de Georges Soros, qui s'était engagé par ailleurs à ne pas financer la dissidence. La dissidence, bon, c'était quelques dizaines ou peut-être centaines de personnes qui vivotaient en marge du système. Ils n'étaient pas très, ils étaient assez inoffensif.
Il a respecté son engagement au début, en tout cas.
Il l'a respecté. En fait, Georges Soros, quand il arrive, il a pas dans l'idée d'abattre le communisme. Il en aurait été parfaitement incapable. Il est plutôt là pour semer des graines pour l'après. Et par exemple, en 1985, en lançant un grand plan pour doter le pays de photocopieurs, ce qui est absolument révolutionnaire pour l'époque, parce qu'évidemment l'État a le monopole de l'imprimerie et ça peut servir à imprimer des samizdat par exemple. Mais enfin, de manière générale, il a respecté son engagement jusqu'en 1988-89, où là, quand le pluralisme fait son apparition et est autorisé, le pluralisme politique, le pluripartisme, pardon, fait son apparition, là, il rentre dans le jeu politique en finançant des organisations qui vont se constituer en partis politiques, dont le Fidesz Viktor Orban, mais pas seulement.
Ah, c'est là que les choses sérieuses commencent, Jacques Rupnik, c'est-à-dire que on va véritablement se mettre à faire de la politique quand on soutient des organisations comme la Fidesz qui ensuite va devenir un parti politique, qui est aujourd'hui au pouvoir, on rentre pleinement dans l'arène politique et dans le processus de transition du pays.
Oui, alors, mais c'est important ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que dans la période où Georges Soros arrive en Hongrie, et il cherche à soutenir des activités culturelles indépendantes, autonomie de la société civile qui s'organise, mais pas forcément sur des thèmes politiques. Et les boursiers qui viennent en Occident, mais pas seulement en Amérique, ils viennent à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales. On recevait chaque année des Hongrois, des Polonais, parce qu'évidemment, ces fondations avaient une ouverture sur toute l'Europe centrale, et ils s'adressaient à la zone grise entre la dissidence et le pouvoir communiste. Il y avait ce qu'on appelait la zone grise, c'est-à-dire des gens qui étaient parfaitement au courant des idées qui circulaient dans la dissidence, qui n'allaient pas jusqu'à rompre avec le pouvoir parce qu'ils étaient dans une institution comme l'Académie des sciences, parce que quand on dit l'Académie des sciences était le partenaire, mais l'Académie des sciences était remplie de gens tout à fait éminents, dont certains sont devenus le nouveau gouvernement après 89. D'ailleurs, c'était pas des gens soutenus par Soros. Ceux qui ont constitué le premier gouvernement de la Hongrie, Antal, Jeszenski, etc., ils venaient tous du département d'histoire de l'Académie des sciences. Ce n'étaient pas des gens soutenus par Soros, absolument, c'était plutôt des historiens plutôt conservateurs. Et la moitié du gouvernement hongrois était composée de membres de l'Académie des sciences. Voilà, ça c'était
mais,
le premier.
Mais l'ambition de Georges Soros, on est bien d'accord, il travaille sur cette zone grise, j'entends, mais son ambition c'est bien de mettre un terme à ce régime communiste.
De favoriser l'éclosion de conditions qui permettent le changement. C'est-à-dire l'idée de la société ouverte, c'est que vous voyez que le système n'arrive plus à fonctionner. Le système communiste était en décomposition. Et dans cette phase de décomposition, vous n'appelez pas à la révolution, vous créez plutôt des conditions d'auto-organisation de la société dans la sphère culturelle, dans la sphère intellectuelle, dans divers domaines. Vous essayez aussi de créer un réseau à l'échelle de l'Europe centrale. Et au moment où se produit la grande rupture de 89, que Soros n'a pas orchestré, s'il y a quelqu'un qui a contribué, c'était plutôt Gorbatchev, plus que, parce que c'est lui qui a permis quand même l'ouverture du rideau de fer et la chute du mur. Mmh. Mais donc, lorsque se provoque la grande secousse, à ce moment-là, certains des acteurs anciennement soutenus par Soros dans le cadre de la société civile auto-organisée, deviennent des acteurs politiques, y compris Viktor Orban avec le Fidesz. Mais à ce moment-là, Soros n'est plus le finance. Ils deviennent un parti politique et ils n'ont plus le financement de Georges Soros à ce moment-là. Oui. Ils deviennent un acteur politique. Ils sont financés comme les autres partis politiques dans les nouvelles démocraties. Et non, à ce moment-là, Soros, lui, garde les fondations, Open Society Fund, en Hongrie et dans d'autres pays, et il joue un rôle au niveau de la société, pas en finançant des partis politiques.
En tout cas, mission accomplie pour Georges Soros, parce qu'il a effectivement rassemblé les conditions du changement, puisque dès les premières élections libres de 1991, il y a cette nouvelle génération qui va arriver au pouvoir, dont fait partie Corentin Léotard, justement, Viktor Orban. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jacques Rupnik dit, au fond, là, cette nouvelle génération, eh bien, elle va s'autonomiser, parce qu'effectivement, la Fidesz devient un parti, et on a des financements qui viennent d'ailleurs. Du côté de la Fondation, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que là, on se dit, bon, on a fait le job d'une certaine manière, on a atteint ce qu'était notre objectif, c'est-à-dire rassembler, pour reprendre la formule de Jacques Rupnik, les conditions du changement. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Fondation? Est-ce que son action va changer du côté de la Hongrie?
Eh bien déjà, le laboratoire hongrois va être étendu à l'ensemble de l'Europe post-communiste. Et Jacques Rupnik l'a bien dit, ensuite il ne s'agit plus de financer ces organisations qui sont maintenant des partis politiques. Et donc l'Open Society Foundation, qui est à l'époque l'Open Society Institute, va vraiment rediriger son action vers des luttes telles que la lutte pour l'instruction scolaire ou la lutte contre la pauvreté. Mmh. Vous savez, on est vraiment dans une époque où de l'ultralibéralisme triomphant, c'est-à-dire qu'on ouvre les marchés, l'État qui s'est compromis avec le communisme est un acteur à balayer de la table. Donc c'est l'arrivée des multinationales, du marché ouvert, et on voit l'Open Society Institute comme un moyen de mettre, disons, des pansements sociaux sur les plaies laissées par la transition au capitalisme. Ça va se traduire par exemple, l'Open Society va financer des repas scolaires aux enfants, le verre de lait le matin et la pâtisserie par exemple, et va mettre en place des programmes, notamment d'intégration de la minorité rom, qui vont être ensuite et qui dure encore aujourd'hui. Un des grands chantiers de la Fondation dans les années 90, c'est l'équipement en ordinateur dans les écoles. Parce que dès 1994, les socialistes, les anciens communistes reviennent au pouvoir, en coalition avec le Parti libéral, qui est l'allié naturel de Georges Soros, si on peut dire. Et à ce moment-là, la Fondation va avoir un rôle majeur dans la vie politique du pays, parce qu'elle va travailler vraiment main dans la main avec le gouvernement social-libéral, notamment dans la politique d'éducation. Mmh. Et donc, en fait, à ce moment-là, la fondation va expérimenter des politiques qui vont être mises en œuvre à grande échelle en Hongrie. Et c'est à ce moment-là que la Hongrie se dote toutes les écoles d'ordinateurs, toutes les écoles de tous les pays qui vont être connectés à Internet avant même, alors que même nous à l'Ouest en France à cette époque-là on n'a pas Internet, eux l'avaient avant. Et ça a été impulsé par la fondation.
Par la fondation Soros. Jacques Rupnik, si on regarde du côté de Viktor Orban, on le disait tout à l'heure, Orban à ses débuts est un libéral. Aujourd'hui, il est plutôt la figure de proue d'un ultra-conservatisme hongrois. Quand, pourquoi et comment on a ce virage du côté d'Orban? Pourquoi a-t-il quitté cette obédience libérale?
Bon, il écrira.
Parce qu'au début, il l'est vraiment très fort. Il est même à la tête de l'Alliance, l'Internationale libérale.
Oui, absolument. Et il n'était pas le seul. Le Fidesz, moi j'ai bien connu un certain nombre des jeunes dirigeants du Fidesz de l'époque. Voilà, ils étaient tous sur cette ligne. Alors bon, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a son instinct politique. Il a compris, lorsque le Forum démocratique hongrois, qui est l'organisation qui avait gagné les premières élections, qui a donné le premier gouvernement que j'ai mentionné, de Antal, qui était un gouvernement, disons, démocrate, national, avec un certain courant conservateur, mais c'était, disons, le grand rassemblement à l'époque. Et il a bien vu que à la mort du premier ministre Antal, il n'y avait plus de leader, que ça commençait à éclater, que ce milieu était un champ ouvert. Et lui, et très délibérément, il a compris qu'il y avait une place à prendre, une place à occuper. Il ne voulait plus être le junior partner du parti libéral, qui était celui des anciens dissidents. Le SDS, l'Alliance des démocrates libres, c'était le parti issu de la dissidence, dirigé par János Kiss et ses amis, et eux étaient censés être en quelque sorte l'organisation de jeunesse. Ça, c'était pas assez bon pour Viktor Orban, il n'allait pas jouer les supplétifs. Non, il avait compris qu'il y avait un espace qui s'ouvrait à droite, il l'a occupé très délibérément, et surtout, il a profité d'un deuxième moment, il y avait son instinct politique après la mort d'Antal, et deuxièmement, l'alliance entre les libéraux, issus de la dissidence, et les anciens communistes, le Parti Socialiste. Et ça, c'était perçu comme véritablement un faux pas, non seulement politique, mais quelque chose d'absolument immoral. Et il a lancé sa campagne, la rupture, la vraie rupture, c'est moi qui la représente. Eux, c'est pas la rupture, ils font la rupture dans le changement, dans la continuité. Voilà.
Ça, oui.
Non, moi je suis la vraie rupture. Et ça, c'est le discours qu'il a gardé jusqu'au moment où il a gagné les premières élections à la fin des années 90. Il est devenu le plus jeune premier ministre d'Europe à 35 ans.
Alors, opportunisme politique, mais de là à développer cette rhétorique anti-Soro qu'on connaît, il y a un pas qu'il a franchi.
Sans la préservation de notre mode de vie, tout perd de son sens. Si notre État n'est plus hongrois, à quoi ça sert de se battre pour lui? Pour ne pas nous tromper, nous ne devons pas nous battre contre des partis d'opposition affaiblis, mais contre l'empire international des grandes multinationales, contre les médias nationaux qui sont aux mains d'oligarques, contre les activistes corrompus, les organisateurs de manifestations cherchant à troubler l'ordre public, les ONG soutenues par les spéculateurs internationaux, des ONG qui sont représentées par des gens comme George Soros. Contre ce monde, nous devons livrer une bataille pour nous protéger.
Voilà, extrait du discours de Viktor Orban du 15 mars 2018. On est lors du 170e anniversaire de la révolution de 1848. Corentin Léotard, c'est à partir de là que Orban va se mettre à développer cette rhétorique anti-Soros ou c'est un peu avant?
Alors, au début de l'émission, vous passiez un son de George Soros qui disait ne plus souvenir quand il avait rencontré pour la dernière fois Viktor Orban. C'était en 2010. La Hongrie s'apprêtait à prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Et deux hommes se rencontraient pour un peu voir quelles pourraient être les avancées en matière d'intégration des Roms au niveau européen. Donc à cette époque-là, les deux n'avaient pas du tout rompu. Mmh. En 2013, on a commencé à voir dans la presse de droite les premières attaques contre les ONG. Mais tout ça était vraiment très, très parcellaire. À cette époque-là, personne en Hongrie ne sait qui est Georges Soros. Enfin, le Hongrois moyen l'ignore totalement. La vraie rupture intervient en 2015, l'année de la crise migratoire, et je mets des guillemets à cette expression, où Viktor Orban vraiment se révèle à la face du monde comme le dirigeant nationaliste, autoritaire et xénophobe qu'il est, et prend pour cible Georges Soros, qui est accusé de favoriser l'immigration illégale et même de vouloir détruire les nations européennes et chrétiennes sous le flot de migrants musulmans. Voilà, et c'est vraiment de 2015, l'année de la rupture, mais je dirais que tout ça est du pur cynisme et est un pur calcul politique. D'ailleurs, Viktor Orban n'a strictement rien contre Georges Soros, et l'idée de se retourner contre Georges Soros, d'en faire la figure du mal qui va lui permettre de stigmatiser tous ses adversaires, de les disqualifier, c'est-à-dire l'Union européenne et l'opposition interne en Hongrie, en les présentant comme des marionnettes de Georges Soros, c'est pas son idée à lui. C'est l'idée de consultant politique américain, Arthur Finkelstein, qui travaillait des Ronald Reagan, des Nixon, pour les droites américaines, et qui lui était conseillé par son grand allié, Benjamin Netanyahu.
Ouais, c'est un spin doctor américain qui est très connu de la droite radicale. Mais Jacques Rupnik, pourquoi est-ce que ses conseillers, justement, choisissent Soros? Pourquoi est-ce que Soros est, j'allais dire, le candidat parfait pour construire cette rhétorique par laquelle il va renforcer son pouvoir?
Parce que dans leur esprit, ils cochent plusieurs cases. Puisqu'on est vent debout contre eux, l'ouverture, la mondialisation, le sans frontières, les ONG qui jouent un rôle disproportionné, etc. Soros, il incarne ça. C'est le financier international, hongrois d'origine, juif à New York. Dans la tradition hongroise, quand Orban dit « les vrais Hongrois savent qu'il faut faire, il faut défendre le pays, etc. », quand il dit « les vrais Hongrois », tout le monde en Hongrie comprend ce qu'il suggère. C'est qu'il y a aussi des Hongrois qui le sont peut-être moins, qui sont le côté ouverture cosmopolite. Et il s'adresse là à une vieille fracture dans la société hongroise. Il y a un relent. Orban lui-même n'est pas antisémite. Il joue avec quelque chose qu'il sait présent dans la société et il l'exploite à son avantage. Et c'est une ironie, effectivement, que ce soit des conseillers politiques envoyés par Bibi Netanyahu qui sont ça. Mais dans leur esprit, c'est uniquement de la tactique politique. Or, Corbyn, y croit ou non, ça c'est une chose. Il met en marche, il installe dans la société un discours sur la nation et sa matrice ethnique qui est quelque chose de profondément inquiétant et qui est bien sûr, qui ensuite va de pair avec sa lutte contre la société ouverte. Faut protéger les frontières, faut nous protéger du cosmopolite Orban et ensuite on fait le lien avec l'Union européenne puisque sur les posters de la campagne électorale, il y avait Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et derrière lui, Hilar, la photo de George Soros. Donc, Juncker, l'Union européenne, ce n'est qu'une marionnette de George Soros. Et donc, vous avez là le complot international parfait. Soros, la finance internationale, le juif hongrois à New York, qui tire les ficelles derrière l'Union européenne, qui fait quoi? Qui ouvre les vannes de la migration pour préparer le grand remplacement en Hongrie.
On va évidemment essayer de déconstruire un tout petit peu les choses et regarder ce qu'est l'influence réelle de Soros et de sa fondation sur les institutions européennes. On va accueillir dans un instant Oriane Caligaro. Mais tout dernier mot, Corentin Léotard, que se passera-t-il quand Soros ne sera plus là? C'est aujourd'hui l'ennemi parfait pour Orban. C'est celui qui lui permet de remporter victoire électorale sur victoire électorale. Mais Soros a l'âge qu'il a. Il a 90 ans. Que se passera-t-il lorsqu'il ne sera plus là? Il va falloir un futur ennemi, un nouvel ennemi.
George Soros, c'est l'ennemi de chair et de sang qui permet de personnifier un peu toute la révolution conservatrice voulue par Viktor Orban, sans quoi il aurait l'air un peu d'un Don Quichotte qui se bat contre des moulins, même si ça ressemble quand même à ça encore. C'est comme vous rappelez, George Soros a 90 ans, mais alors... Il vient de transférer, il y a 2 ou 3 ans, 18 milliards d'euros à l'Open Society Foundation, et son fils, Alexander, est en passe de prendre la relève. Donc, les activités de George Soros ne vont pas s'arrêter après sa mort. Par contre, oui, évidemment, du côté de Viktor Orban, ça va poser un problème, parce qu'il va falloir trouver un nouvel ennemi, mais ça, je crois qu'on peut lui faire confiance. De toute façon, Viktor Orban ne sait pas gouverner sans adversité et sans ennemi. Donc, il en trouvera un autre, sans doute.
On est avec vous, Corentin Léotard, en direct depuis Budapest, et vous, Jacques Rupnik, ici à Paris. Je vous remercie tous les deux d'être avec nous dans cette semaine consacrée à ces milliardaires qui veulent changer le monde. On parle aujourd'hui de George Soros. Vous parliez de l'influence qu'il a ou qu'on dit qu'il a du côté des institutions européennes. On va s'y intéresser tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
J'ai toujours dans l'idée que l'Union européenne dispose de leviers qu'elle peut utiliser pour dégager un résultat positif suite au grand bouleversement que notre société traverse. Elle a de l'argent, elle a une population de 500 millions d'habitants, elle dispose du droit, elle a la capacité de mener une diplomatie et de trouver des accords avec les autres pays du monde. Donc, nous vivons un âge plus sombre qu'il y a 10 ans, mais je pense que l'Union européenne reste une source de lumière éclairante, et j'espère qu'une nouvelle génération de personnalités politiques sauront utiliser ces opportunités au maximum.
Voilà, on vient d'entendre la voix de Heather Grab, qui est la directrice de l'Open Society European Policy Initiative, qui est donc le versant, j'allais dire, européen de l'Open Society de George Soros. On va regarder quelle est son action, justement, au niveau des institutions européennes. Bonjour Oriane Caligaro.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'École européenne de sciences politiques et sociales de Lille. Et vous êtes professeur invité également au Collège d'Europe à Bruges. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette Open Society European Policy Institute et nous dire ce qu'elle a de spécifique par rapport à l'activité de l'Open Society Foundations traditionnelle dont on a parlé, qu'on a décrit concernant par exemple la Hongrie?
Oui, alors donc cet institut, donc OSEPI, a été créé en 1997 par l'Open Society. Donc c'est un bureau bruxellois, c'est un think tank, et on voit qu'il a été créé en amont de l'élargissement. En fait, je pense que l'Open Society voyait à cette époque-là tout l'intérêt justement de l'Union européenne. Puisque ça allait devenir la nouvelle instance pour tous ces pays de l'Est qu'allait intégrer l'Union européenne. Et le but, c'était de continuer en fait les activités qui ont été décrites tout à l'heure par vos invités, notamment auprès des populations discriminées comme les Roms, mais par le biais de ce qu'allait devenir des politiques européennes. Et en fait, l'autre aspect qui a intéressé l'Open Society, c'est aussi la montée de la xénophobie dans les années 2000. Donc le succès, donc là, et pas seulement dans les pays de l'Est, mais dans toute l'Europe, le succès des partis d'extrême droite, tout le contexte aussi de la lutte antiterroriste qui a mené de nouvelles formes de discrimination, notamment contre les populations musulmanes. Donc le but de cet institut, eh bien, c'est d'influencer. Donc c'est tout à fait, c'est en fait un institut également de lobby ou de plaidoyer, comme on dit quand il s'agit de causes non économiques, mais de défense des droits, de faire du lobby auprès des institutions européennes pour que, notamment, ces politiques de lutte contre les discriminations soient mieux développée au niveau européen.
Alors ça, c'est pour l'objectif, Oriane Caligaro. Vous dites dans un article très intéressant qui était paru dans la revue Politics qu'on essaye de se concentrer sur les causes peu consensuelles. Vous avez parlé des Roms, on pourrait parler des travailleurs du sexe, des populations LGBT, des usagers de drogue, etc. etc. La question maintenant étant, par quel levier précisément cette Open Society European Policy Institute, eh bien, essaye d'imposer à l'agenda des sujets dont on sait qu'ils vont être bloqués au niveau des gouvernements. Quels sont les leviers?
Alors, il y a différents aspects. D'abord, il y a toujours les activités de financement de l'Open Society, parce que cet institut bruxellois ne finance pas. C'est uniquement donc ce think tank, cette organisation de plaidoyer. L'Open Society en Europe continue à financer les organisations de la base. Et ce qu'elle fait aussi, elle finance des réseaux européens. Donc moi encore une fois, je ne parle que de ce que j'ai étudié dans l'article que vous avez mentionné, à savoir les luttes contre les discriminations. Concrètement, ce que peut faire Open Society, c'est ça a été aider à financer la restructuration d'un intergroupe au Parlement européen. Un intergroupe, c'est un regroupement d'échanges informels de parlementaires de différents groupes politiques sur des grandes thématiques transversales, donc le handicap, la biodiversité par exemple. Et il y a donc cet intergroupe sur l'antiracisme et la diversité. Et c'est un intergroupe qui était un petit peu qui n'avait pas beaucoup d'activité. Et bien grâce à un financement de l'Open Society, il y a eu un nouveau secrétariat, donc l'Open Society a permis de redynamiser des activités au niveau du Parlement européen. Donc ça, c'est vraiment l'activité de lobby. Et l'autre, alors là, ce qui est tout à fait particulier à cet institut, ce think tank que vous évoquiez au début, c'est que maintenant, il est reconnu comme représentant de la société civile au niveau européen, puisque, par exemple, là, je vais parler de la Commission européenne, cette fois, donc qui réunit très souvent des groupes d'experts sur toutes sortes de thématiques. Il y a un groupe d'experts qui se réunit régulièrement, encore une fois, sur ces thématiques de l'antiracisme, avec des représentants gouvernementaux et des ONG, justement. Donc, il y a Amnesty International, des grands réseaux européens de lutte contre le racisme. Et on retrouve cet institut bruxellois d'Open Society. Et donc là, c'est tout à fait nouveau parce que ce n'est plus comme bailleur de fonds que Open Society est reçu donc au sein même des institutions, mais comme expert, voire comme représentant de la société civile. Et ça, par exemple, ça inquiète un petit peu les ONG qui justement sont récipiendaires des financements d'Open Society, parce que là, Open Society sort de son rôle habituel et vient en quelque sorte faire le travail qui est celui normalement des ONG.
Sans compter que ça risque de nourrir précisément toute cette rhétorique anti-Soros qu'on entend évidemment du côté de la Hongrie, mais en réalité partout maintenant en Europe, dans toutes les extrêmes droites, y compris en Europe occidentale, c'est un thème absolument récurrent qui d'ailleurs frise régulièrement le complotisme ou même carrément tombe parfois dans le complotisme. Donc ça risque aussi de nourrir ce sentiment-là.
Alors absolument, c'est utilisé aussi comme ça par certains discours, mais il faut aussi remettre ça. Enfin, moi, ce que je montre, c'est une activité qui reste l'activité au final traditionnelle d'Open Society, donc essentiellement sur le financement. Et après, ce think tank bruxellois, c'est un think tank parmi d'autres. L'Union européenne a toujours été ouverte à toutes sortes d'acteurs. Donc Open Society, elle a aussi depuis très longtemps, et on l'a vu avec le cas de l'Université d'Europe centrale, elle est très ancrée dans le monde universitaire et académique.
Oui, donc, on sait bien qu'à Bruxelles, il y a une activité de lobbying qui est par ailleurs encadrée. Alors peut-être qu'il faudrait-il mieux l'encadrer encore, mais en tout cas, on sait bien que tout cela existe et c'est pas le seul acteur. Jacques Rupnik, peut-être une réaction sur ce plan-là et puis comprendre aussi comment les choses se sont passées, parce que tout à l'heure, on évoquait la manière dont Orban avait utilisé justement la figure de Soros pour renforcer son pouvoir. Mais on a vu cette rhétorique anti-Soros aussi s'étendre, et notamment s'étendre à l'Ouest. Il y a quelque chose là sur lequel il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que ici, dans ce qu'on appelle traditionnellement la fachosphère, on a pris aussi Soros comme ça en grippe?
Oui. Alors, deux choses. D'abord, sur ce qui vient de dire sur l'Union européenne. C'est un paradoxe parce que Soros pensait qu'il allait aider la société civile en Europe du centre et de l'est pendant la période de transition et qu'avec l'entrée dans l'Union européenne, l'Europe centrale, finalement, n'était plus importante pour lui puisque l'Union européenne prenait le relais. À ce moment-là, les financements pour le développement des institutions, l'état de droit, la société civile, venaient de l'Union européenne. Donc voilà, c'était dans son esprit, mission accomplie. Et à ce moment-là, Soros se tourne vers, va plus à l'Est. Il va dans l'ex-Union soviétique, il se tourne vers l'Afrique, il a d'autres activités parce qu'il pense que maintenant qu'ils sont dans l'Union européenne, l'essentiel est fait. Il découvre ensuite qu'il n'en est pas ainsi et que ce qu'il avait soutenu, par exemple, dans les Balkans, en Serbie, avec sa fondation, qui était la seule fondation qui ait pu subsister pendant la période Milosevic. Hein, on parlait de régime à parti unique. Là, c'était un régime avec une ONG unique, qui était l'ONG de Soros, qui était la seule organisation d'opposants. Alors, ça, parce qu'il a vu ce rôle en Europe centrale et ailleurs, a suscité l'idée que ce réseau, il est présent partout où il y a des changements politiques dans l'air. Et c'est vrai que les fondations Soros, par exemple, finançaient le monitoring des élections, c'est-à-dire la surveillance. Est-ce que les élections se déroulent dans des conditions libres et non faussées? Par exemple, on allait, voilà. Et ça, ils l'ont fait dans le Caucase, ils l'ont fait en Géorgie, etc. Et donc, ça, c'était la peur bleue de tous les apprentis autoritaires.
Totalement infondés.
Absolument. Et donc, vous voyez, soudain, en Macédoine, Gurgevski lance la campagne anti-Soros, chacun a voit Soros. Le premier ministre slovaque, au moment de son départ, dit que quand le président fait un discours qui le critique, il dit « c'est un discours écrit à l'étranger, tout le monde est censé comprendre, George Soros lui tenait, etc. etc. » Et donc il y a cette idée, même aux États-Unis, même, alors c'est ça la nouveauté, c'est que Soros, autrefois, il gagnait l'argent à l'Ouest, il le dépensait à l'Est. C'était en gros ça. Il gagnait l'argent de façon amorale, il dépensait de façon morale. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Eh bien là, il s'est, au cours de la dernière décennie, Soros investit dans la démocratie en Amérique.
On a peut-être besoin.
Et donc, la paranoïa, disons, est-européenne des apprentis autoritaires en Europe de l'Est s'étend partout et il voit la main de Soros partout où il y a la contestation de tentations populistes ou autoritaires.
Reste à voir ce que l'Union européenne peut faire justement pour contrer tout ce discours. On apprend aujourd'hui que la justice européenne a condamné la Hongrie pour sa fameuse loi sur les universités étrangères qui a provoqué, on en parlait tout à l'heure, le déménagement de l'université de l'Europe centrale du côté de Vienne. Reste à voir si évidemment ça aura de l'effet sur Orban. On aura d'autres occasions d'en parler. En tout cas, un grand merci. D'abord, Ariane Caligaro, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez donc signé notamment cet article très intéressant dans la revue Politics, une organisation hybride dans l'arène européenne. Grand merci également à Corentin Léotard qui est avec nous ce matin depuis Budapest, qui est journaliste et rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale, qui est évidemment excellent pour avoir des nouvelles de cette région-là. Jacques Rupnik, grand merci également à vous. Je rappellerai vous concernant, je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez notamment dirigé Géopolitique de la démocratisation qui était paru aux presses de Sciences Po. On poursuivra notre série consacrée aux milliardaires demain, mais pour l'heure, on retrouve Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors dans votre chronique d'hier, Brice, vous aviez mentionné un livre qui vient de paraître en folio, « Comment conduire un pays à sa perte ».
Oui, Ece Temelkuran, son auteur, est une célèbre éditorialiste turque. Elle a dû s'exiler pour échapper à la dictature islamiste de l'AKP dans son pays. Comme le titre de son livre l'indique, elle réagit avec un humour amer à la manière dont la Turquie a été progressivement mise au pas par Erdogan. Premier précepte à l'usage de l'homme fort populiste, afficher la volonté de nettoyer le marigot politique. Comme Trump, débarquant à Washington où il est détesté, les élus de l'AKP se présentent comme des provinciaux qui vont chasser les élites de la capitale. Ils parlent au nom du vrai peuple, se proclament représentants de la nation authentique que les élites mondialisées des métropoles, l'establishment comme ils disent, ont trahi. López Obrador, au Mexique, a coutume d'opposer lui aussi le bon peuple qu'il acclame sur les places aux élites conservatrices qui bloquent ses initiatives délirantes. Et de fait, les mouvements populistes recrutent leurs premiers électeurs dans les petites villes et parmi les couches de la population qui luttent contre la précarité. Leur ressort principal, c'est le sentiment d'humiliation ressenti par des dizaines de millions de gens. Je cite là Temalcoran. « L'homme ordinaire a besoin d'un berger pour le guider vers la grandeur. Il savait à quel point c'est humiliant et décevant de réaliser que vous n'êtes que médiocre dans un monde où l'on ne cesse de vous répéter que vous pouvez devenir ce que vous voulez. Ce n'est pas votre faute, leur disait-il. C'est eux qui nous ont empêchés de devenir grands. » Fin de citation. Le leader populiste s'est témoigné du respect pour les simples gens, ce que la diplômée Hillary Clinton a eu la sottise de qualifier de déplorable. Si le leader populiste prétend éprouver du respect pour les vrais gens, comme Orban, il exige aussi le respect pour sa propre nation. Comme le souligne Etche Temalcoran, le mot « respect » dans sa bouche prend le sens menaçant qu'il a dans la mafia. Exiger le respect comporte une menace implicite de recours à la force physique pour y contraindre le récalcitrant. Erdogan s'exprime comme un Michael Corleone. Furieux que l'Allemagne et les Pays-Bas aient interdit à ses fonctionnaires de devenir appelés ses ressortissants dans ses pays d'immigration à voter pour l'AKP, il menace. Si l'Europe continue comme ça, aucun Européen ne pourra plus marcher nulle part dans la rue sans être en danger. La prétention affichée des leaders populistes de bousculer les élites établies, de renverser la table politicienne avec cynisme et mauvais goût, plaît au début, bien au-delà des rangs du mouvement et de ses partisans. Voir humilier les puissants est un spectacle savoureux.
Bon, alors Brice, première étape, créer un mouvement qui se prétend émaner du vrai peuple et des vrais gens pour s'emparer du pouvoir. Deuxième étape,
ça s'appelle détraquer la raison et affoler le langage. Une fois parvenu au pouvoir, le leader populiste démontre aux spectateurs ébahis qu'il ose brailler n'importe quelle contre-vérité. Son impudeur et son aplomb démontrent la particularité de son emprise, elle s'étend jusqu'au langage. Prenez Erdogan, toujours lui, le 15 novembre 2014. Il s'écrit « On présume que le continent américain a été découvert par Christophe Colomb en 1492. En fait, des érudits musulmans sont arrivés sur le continent 314 ans avant Christophe Colomb, en 1178. » Dans ses mémoires, Christophe Colomb mentionne l'existence d'une mosquée au sommet d'une colline au large des côtes de Cuba. Alors, qu'un chef de gouvernement d'un pays moderne, à la population éduquée, fasse ce genre de déclaration extravagante suffit à affoler les boussoles, à détraquer le sens logique. Un tel culot inquiète, on se demande à quelle nouvelle provocation s'attendre. Dans la langue russe actuelle, lit-on dans « Surviving Autocracy » de Masha Gessen, tout le vocabulaire qui a trait aux principes et aux idéaux, après avoir été galvaudé pendant des décennies, est tombé en désuétude. Un mot comme « démocratie » ne peut être prononcé qu'avec un sourire en coin. C'était dans le magazine Books de ce mois-ci. On dit de Donald Trump qu'il est capricieux comme un enfant, que c'est à ce titre qu'il s'autorise ses impudents et célèbres mensonges. Mais cette manière de faire des pieds de nez à l'exactitude s'inscrit dans le cadre d'une stratégie délibérée. Un homme qu'on ne peut raisonner est un homme qui fait peur, a écrit Camus. Cause toujours, semble répéter l'homme fort populiste à ses contradicteurs. Lors de sa conférence de presse du 9 janvier 2018, le premier ministre thaïlandais, Prayut Chan-o-cha, a installé, tenez-vous bien, son portrait grandeur nature devant un micro et il a lancé aux journalistes venus l'interroger « Posez donc toutes les questions que vous voulez à ce gars-là » et puis il a quitté la salle. Le leader populiste ne se situe pas sur le même terrain cognitif que ses adversaires. Il n'y a pas de faits, il n'y a que des opinions, disent les partisans d'Orban en Hongrie, une méthode inspirée de Steve Bannon. L'effet sur les élites du savoir est garanti. Ils se sentent soudain déconnectés, laissés pour compte et comme en retard d'une réalité nouvelle. On s'épuise en tentative de rétablissement des vérités objectives avant de renoncer par lassitude. À quoi bon convaincre un partisan islamiste de la Terre plate ou un évangéliste créationniste qui croit que les hommes ont cohabité avec les dinosaures ?
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on retrouve évidemment sur le site de France Culture. On poursuivra demain avec donc ce livre d'Etche Temelkouran. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gesbert et La Grande Table.